j'ai soulevé comme question. Et puis, si vous avez des questions autour du concept de genre, c'est l'occasion jamais de les poser. Et au contraire, je vais vraiment pouvoir me répondre. Puisque depuis quelque temps, on a un peu entendu beaucoup parler de la théorie du genre. Donc moi, voilà, je peux vous dire ce que j'en pense, si vous le souhaitez, qu'il n'y a pas de théorie au singulier, mais que c'est un concept et qui ouvre à toutes sortes éventuellement de théorisations, mais qu'il n'y a pas une théorie du genre, et que c'est vraiment un très grave problème là de blocage entre les sciences humaines et certains savoirs religieux qui contestent l'hypothèse même de nos travaux, ce qui est pour nous quelque chose de très grave, voilà. Puisque ce n'est même pas le résultat, c'est déjà de poser la question qu'il existerait une construction sociale, que les sociétés fabriquent des normes qui font qu'on se différencie. Donc voilà. Enfin, donc si vous voulez poser des questions là-dessus, je suis tout à fait prête à y répondre. Voilà. C'est pas que j'y tiens, hein, mais je dis que profitez-en parce que vous m'avez sous la main, alors profitez-en.
Vous pourriez peut-être nous faire tout simplement un petit exposé sur la question, là, sans qu'on soit obligé de.
Non, mais c'était pour partir aussi des questions que vous vous posiez éventuellement. Disons, c'est. Voilà, ce que moi j'essaye d'expliquer. C'est que donc ce n'est pas la théorie du genre qui a été vraiment, là pour le coup, une théorie vraiment très idéologique, mais c'est un concept, c'est-à-dire que c'est une notion qui déjà s'inspire de la grammaire. Quand vous avez la grammaire, vous avez du masculin et du féminin.
Est-ce qu'on est d'accord de passer, ça risque de prendre.
Ah, c'est Monsieur Louvet, il ne voulait pas que je parle de ça.
Non, mais je souhaite voir, savoir si. Ça intéresse tout le monde.
Voilà. C'est parce qu'on en entend beaucoup parler, oui, de façon parfois confuse.
Je peux que dire oui.
Ce serait bien qu'on soit fixé. Si.
Je trouve ça comprendre aussi pourquoi il y a crispation.
Oui, alors ça, c'est une deuxième chose, peut-être juste pour vous donner, mais je vous assure, je ne vais pas être trop long. Donc, si on part déjà juste. Non, mais c'est pour simplement rendre les choses un peu plus simples. Déjà, on peut partir de la grammaire. Qu'est-ce que c'est le genre en grammaire? C'est du masculin et du féminin, et c'est une convention. Il y a des langues où la lune est masculine en allemand et elle est féminine en français. Ça veut dire que donc, il y a différentes. Les sociétés produisent des codes, des normes qui fixent non seulement le fait que ça sera masculin, ça ce sera féminin,
sans parler du genre neutre.
Voilà, sans parler
dans
du
certaines
neutre.
Langues,
tout à fait.
Dans certaines langues, il n'y a pas de genre.
Voilà. Et dans l'autre langue, il n'y a
que le genre.
Donc, si vous voulez, voilà.
Voilà.
Donc, c'est déjà quand on nous pose la question, mais qu'est-ce que c'est que ce mot? C'est le gender. Mais non, d'abord, le mot genre existe en français, le genre grammatical. Alors, à partir de cette réflexion sur l'idée qu'il y a des normes qui fixent le masculin et le féminin et qui vont finalement fixer comment les sociétés organisent les rapports hommes-femmes ou vont définir comment les petites filles vont devenir des jeunes filles puis des femmes, puis comment elles vont ensuite devoir se marier, pas se marier, épouser le frère de leur mari s'il est mort, enfin toutes ces règles de parenté, de filiation et de différenciation des sexes, c'est pas forcément la différence, c'est la différenciation. Qu'est-ce qui fait qu'on va vouloir distinguer les deux sexes? Il y a autant de choses communes que de choses différentes. Il y a des choses qui sont pertinentes dans la différence selon les sociétés. Les sociétés vont accorder beaucoup d'importance à telles caractéristiques, soit du corps, soit de la décoration du corps. Toutes les sociétés ont un rapport au masque, etc. Donc il y a des façons. Ce qui a permis, si vous voulez, ce concept, donc insiste sur la façon dont les sociétés fabriquent ces normes. Et que c'est déjà l'idée de dire que ce sont des normes. Et que donc les normes, ça change. Historiquement, ça change. Anthropologiquement, ça change. Ça a des significations différentes. Et que tout est un jeu entre comment ces sociétés fabriquent ces normes et comment ces normes finalement changent, puisqu'on voit bien qu'il y a, dans quelques sociétés, il y a une historicisation de ces normes, comment elles sont aussi travaillées par les individus qui, de tout temps, ont pu échapper à ces normes et ne jamais rentrer dans toutes ces catégories. Et une des choses qui est intéressante dans ces théologies, aujourd'hui, les théologies féministes sont aussi des théologies inclusives, des théologies qui se discutent du point de vue de l'homosexualité et qui relisent les textes religieux avec exactement cette même appareil critique pour y lire des hommes qui aimaient des hommes, des femmes qui aimaient des femmes, c'est moins fréquent, parce que ça ne se dit pas de la même façon, où c'était de l'invisibilité de l'amour des femmes entre elles, et des façons de faire famille dans la Bible qui sont totalement extravagantes. Donc l'idée qu'il y aurait un modèle préétabli qu'il faudrait absolument suivre, c'est quelque chose qui, en tout cas, scientifiquement, est très discutable. Et deuxième chose, donc déjà, si vous voulez, il y a un problème sur l'hypothèse de départ. Dans les études de genre, et de plus en plus, le monde scientifique suit, parce qu'il faut savoir que c'est tout à fait banal. Ce terme est tout à fait banalisé dans la plupart des pays. Il y a une crispation politique en ce moment, ou politico-religieuse, mais grosso modo, c'est dans tous les pays. Quand vous allez en Amérique latine, vous avez des études de genre partout, dans toutes les universités. Enfin, c'est nous qui passons pour des pays sous-développés là, pour l'instant. C'est assez étrange, hein. Donc, maintenant, ce qu'on met à l'intérieur de ce concept, les résultats de ces recherches vont forcément ne pas toutes être les mêmes. Dans le monde scientifique ou dans n'importe quelle catégorie ou discipline, vous avez des discussions, des gens qui vont mettre l'accent sur tel aspect, d'autres sur tel autre. Donc, il peut même y avoir des théories, oui, des théorisations, parce qu'il y a des types de disciplines, par exemple en sciences politiques, on modélise, etc. Mais ça ne veut pas dire d'abord qu'il n'y en a qu'une seule. Ensuite, elles sont en dialogue, elles peuvent être tout à fait contradictoires et différentes. Et par ailleurs, ce qui pose aussi problème aujourd'hui, c'est que ça touche aussi les sciences dures. Or, dans la façon dont les discours religieux plus conservateurs veulent mettre en avant l'idée d'une révélation, d'une différence des sexes qui doit être monolithique, donnée de droit divin, comme une révélation et donc quelque chose qui ne doit pas être travaillé, alors que les sociétés travaillent ces différences depuis toujours, c'est aussi une confrontation d'une hypothèse. On est presque dans, pas pour tous les discours, hein, mais dans certains types de discours contre le genre, quand ils ont été exprimés de façon plus radicale, notamment dans le lexique des mots à proscrire publié par le Vatican, qui est très 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 réactionnaire sur ce plan, c'est vraiment l'hypothèse même qui est contestée, l'hypothèse de travail qui est la nôtre et qui est contestée d'autant plus que en biologie, c'est quelque chose qui avance aussi, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le pensait qui ne rentrent pas absolument dans XX ou XY, et qu'en fait il y a du XXX, du XXY, du YYX, que les êtres humains sont beaucoup plus complexes et qu'entre hommes et femmes c'est un continuum. Un continuum avec toutes sortes de différenciations, et que la pertinence de séparer les sexes n'est pas forcément toujours obligatoire, et qu'elle n'est pas non, et qu'elle, en plus, elle n'a pas toujours été. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur les crispations, c'est que les religions génèrent leur propre vision. D'abord, je pense que notre rôle en tant qu'analyste, c'est de montrer la diversité des paroles, c'est-à-dire même si ce sont des paroles marginales et minoritaires, c'est très important de montrer qu'il y a du pluralisme religieux et qu'il n'y a pas non plus, c'est sûr qu'il y a des dominants, des dominés, des majoritaires, des minoritaires, mais la religion n'appartient pas qu'à la parole majoritaire, en tout cas d'un point de vue sociologique, ça c'est sûr. Et pour nous, sont très pertinents les paroles même minoritaires, même ultra-minoritaires, puisqu'on sait que c'est aussi dans les marges que se fabriquent les futures normes des sociétés, etc. Donc ça, c'est une chose. D'abord, il y a des paroles plurielles. Et deuxième question, quand même assez grave, c'est jusqu'où les mondes religieux peuvent-ils imposer aux non-croyants leurs valeurs ? C'est-à-dire jusqu'où que on ait des valeurs dans un monde plus ou moins communautaire, c'est une chose qui est respectable en soi. C'est une communauté qui se donne une règle et qui veut s'y soumettre. Maintenant, l'autre problème qui s'est posé récemment, c'est... mais ça n'empêche que les débats de société ont tout à fait lieu d'être, ils sont indispensables pour faire aussi émerger les questions, les faire mûrir. Mais maintenant, il y a quand même une question sur la prétention au magistère moral, la prétention à l'expertise morale. Et je pense que c'est une question, alors déjà, ça s'est traduit dans le comité d'éthique, hein, il n'y a plus de personnel religieux. Et ça reste une question importante, c'est-à-dire que vivons-nous ? Parce que là, nous vivons une crispation identitaire, des mondes conservateurs qui ont pris le dessus. Quelle va être ? Alors, soit ça va être un moment de montée du conservatisme, il est parallèle à un conservatisme politique. Ça peut être aussi des effets boomerang, c'est-à-dire qu'on va vers une délégitimation de la parole morale, éthique, du religieux. Si vous voulez, on revient à l'idée, on rejoue du conflit, hein, comme on rejoue pas tout à fait la guerre de France, mais du 19e siècle, mais on rejoue du conflit. Si on analyse les discours extrémistes, on est presque dans du créationnisme, dans du procréationnisme, c'est-à-dire qu'on pense que tout vient d'un homme et d'une femme et que donc il n'y aurait aucun autre modèle possible et que tout autre modèle et de sexualité et de procréation serait illégitime. Mais maintenant, jusqu'où s'agit-il d'une parole pertinente d'un ordre symbolique pour les sociétés ? Donc voilà, je dirais que la crispation, elle est pas seulement sur le fait qu'il y ait des accords, parce que elle est le fait de jusqu'où va-t-on juger tolérable et n'y a-t-il pas risque de crispation laïque dont on peut regretter qu'elle se soit déjà souvent manifestée à l'égard de l'islam, mais jusqu'où le dialogue va se rompre à partir de cette, si vous voulez, il y a un moment où... Voilà, pour l'instant, l'univers médiatique est plutôt pris par l'aspect plus spectaculaire du conservatisme, mais il reste quand même assez minoritaire, même s'il a démontré sa force de mobilisation, certes. Je m'inquiéterais des deux hypothèses. L'hypothèse où ce mouvement, qui nous touche directement scientifiques, je ne veux pas non plus jouer les personnes persécutées, ce n'est pas du tout le terme, mais en plus, moi, travaillant dans un laboratoire de sciences sociales et religieuses, ça nous interpelle encore plus, parce que, c'est quand même... C'est la légitimité même de centaines de jeunes chercheurs et de chercheurs confirmés qui est quand même mis en péril. Alors là, il y a eu quand même un redressement aussi un peu du discours où on a dit, mais non, la théorie du genre, c'est une chose, les études de genre, c'en est une autre. Mais bon, voilà. Pour moi, il y a un risque de polariser le débat sur des fausses... sur des fausses questions et de ne pas pouvoir du tout dialoguer.
Oui, vous parliez d'une crispation particulièrement française sur le sujet. Vous avez des hypothèses pour l'expliquer par rapport à nos voisins européens en particulier?
Oui, alors je pense que c'est... Moi, j'ai l'impression que c'est une hypothèse assez conjoncturelle, parce que c'est quand même vraiment lié à l'arrivée de la gauche au pouvoir et à l'idée que cette gauche serait illégitime et qu'il y aurait une dépossession non démocratique du pouvoir. Donc j'ai l'impression qu'il y a un imaginaire presque d'un putsch, alors qu'on a vécu une élection tout à fait normale et on n'est pas dans un pays... où les élections sont truquées, mais il y a une sensation de quelque chose qui est inacceptable. Donc je pense que c'est un élément de contexte qui me semble particulier. Et puis il y a eu aussi une certaine culture de droite qui s'est radicalisée et qui peut-être a perdu son discours plus libéral, comme on avait des fois pu l'entendre autour du PACS ou autour de ces questions. Ce qui est étonnant, en 2010, vous avez par exemple, alors là pour revenir au monde religieux, vous aviez des rencontres entre un rabbin, un imam, un protestant, je crois qu'il y avait aussi Olivier Abel, autour de l'homosexualité, des couples même éventuellement, de l'homoparentalité. Enfin, on sentait une possibilité de commencer à débattre de ce qui est en train de se jouer, qui est quand même la reconnaissance de l'homoparentalité, qui de toute façon existe. Hein, donc c'est aussi toujours la même chose, c'est que fait-on avec des phénomènes sociaux, sociologiques, qui de toute façon sont déjà là. Donc voilà, est-ce qu'on les nie? Est-ce qu'on empêche les gens? Est-ce qu'on oblige les gens à aller de toute façon en Belgique ou ailleurs pour faire des enfants? Enfin bon. Donc ça, c'est une autre question. Mais ce qui m'avait frappé en regardant les vidéos, les documents, c'est que par rapport à ce qui s'est passé autour de ces crispations autour du genre et autour de l'homosexualité, autour du mariage pour tous, on a l'impression d'un moment très conjoncturel, c'est-à-dire c'est des choses latentes, mais qui auraient très bien pu rester latentes. Et qui, finalement... D'ailleurs, c'est très frappant quand vous revoyez les années 98-99, on est dans un très violent conflit autour du PACS. Et si vous relisez la presse, ça ne passe pas du tout comme une lettre à la poste. Il y a de toutes sortes de problèmes, ça allait être apocalyptique, c'est la fin du mariage, etc. Et aujourd'hui, la position, c'est bah, non, il faut absolument qu'on ait le PACS, ce n'est pas le mariage. Donc, on voit qu'à ce moment-là, quelque chose qui semblait impossible... Bon, ben voilà, 20 ans plus tard, ben, finalement, devient la norme et à laquelle même on se réfère pour empêcher quelque chose qui est en train de changer. Donc, j'aimerais juste différencier un débat qui me semble tout à fait légitime et qui, y a toutes sortes de... voilà, de catégories de la population qui ne sont pas du tout familières avec le vécu homosexuel ou avec ces transformations, qui ne connaissent pas forcément tous ces milieux de gens qui sont déjà dans des familles recomposées, différentes, etc. Donc il y a besoin d'accommoder, c'est ce que je disais sur le besoin de traduction. Il faut qu'il y ait des personnes qui puissent, chacun dans leur milieu, puisse entamer le dialogue, faire comprendre, acclimater les gens, dédramatiser, donner des données sociologiques et non pas des imaginaires, voilà. Et ça me paraît tout à fait normal et sain. C'est sain, le débat démocratique, il est sain. Maintenant, voilà, plus difficile, c'est la remise en cause d'un vote, d'abord parlementaire, ça va pas de soi non plus. Et puis peut-être la surenchère d'arguments autour de d'une norme qui voudrait être celle, non pas de l'égalité des sexes, ou du moins celle de l'égalité dans la complémentarité. Donc c'est beaucoup le discours qui est mis en avant. Or, c'est un discours qui a ses écueils, ses limites, qui est une façon de légitimer des pouvoirs déjà en place et des interdictions aux femmes d'accéder à certaines places. Donc, je pense que ça a eu un succès étonnant. Je pense que le catholicisme traditionnaliste, identitaire, et quand on dit traditionnaliste, il est très moderne, hein, par ailleurs. Il n'est pas anti-moderne. Il a beaucoup de modernité. Hein. C'est tradit parce qu'il se dit tradit. Mais en fait, c'est une tradition. Comme toujours, les traditions sont réinventées. Hein, donc, c'est une forme, finalement, d'un courant qui a réussi et puis qui a réussi à rallier toutes sortes d'autres toutes sortes d'autres parties de l'opinion.
Oui, mais qui marche bien mieux en France qu'ailleurs.
Oui, qui marche mieux en France qu'ailleurs, bien qu'en Espagne il y a aussi parce que là j'étais à un colloque à Bruxelles où il y avait des témoignages sur l'Espagne, l'Italie, la Pologne, la Slovénie Et finalement, ils ont beaucoup pris exemple sur la manif pour tous, pour rassembler de la même façon, avec les mêmes affiches, avec les mêmes veilleurs tous les 2 mètres qui sont silencieux, qui lisent, les mêmes modes d'action, d'occuper l'espace public. Donc, j'ai l'impression que la France a inauguré des formes de mobilisation qui sont imitées. Enfin, c'est pas j'ai l'impression, c'est ce que j'ai appris à ce colloque. Alors maintenant, je ne peux pas vous dire, et les études ne sont pas suffisamment avancées pour dire l'ampleur. C'est-à-dire, est-ce que c'est... ils n'ont peut-être pas réussi à faire des mobilisations aussi importantes. En Italie, ce sont des groupes, voilà, beaucoup plus d'extrémisme catholique, et qui par contre bénéficient de soutiens encore beaucoup plus importants qu'ici, mais qui sont quand même que des minorités, mais très actives. Et qui ont pris le prétexte là d'une loi contre l'homophobie qui est en discussion et qui a, et ils ont essayé de voilà de faire la même chose que ce qui s'est passé en France.
Est-ce qu'il y a pas une erreur dans la stratégie? Parce que très rapidement, j'ai l'impression que on a voulu diaboliser l'autre camp pour qu'un camp se présente comme le sauveur de la modernité et de la science. Parce que ce que les gens contestaient, c'est pas le fait, c'est d'avoir pris un même mot pour des réalités différentes. Moi, j'ai vu pas mal de gens dans le dialogue qui disaient, nous, on est d'accord, mais le mariage, non. Et je trouve que les gens qui étaient sur des positions médianes, on les a peu entendus, ils n'ont pas eu accès à la presse, ils n'ont pas eu accès aux voix. Et je me demande s'il y a eu une volonté clairement politique de diaboliser l'autre camp pour dire, ben voyez, nous, on est dans la position de sauvage. J'ai trouvé ça assez pervers, quoi.
Oui, c'est vrai que quand un débat se polarise comme ça, il n'y a plus du tout de place pour un dialogue ou pour des questions. Voilà, ou pour que je... Du coup, alors ceci dit, les auditions parlementaires, il y a eu des auditions parlementaires qui ont été filmées, donc côté Assemblée nationale et côté Sénat, où ils ont vraiment auditionné donc des responsables religieux, mais ils ont auditionné des anthropologues, des responsables d'associations. On voit là, il y a eu tout un travail quand même très intéressant, mais auquel le public n'a pas forcément accès. C'est en accès libre, hein, mais il faut y aller, il faut prendre le temps. Il y a eu quand même des espaces, peut-être dans la presse ou des... Dans certains, voilà, je pense qu'il y a quand même eu quelques espaces de dialogue, mais ce n'est pas ça qui a, en tout cas, les médias en ont fait aussi une affaire. Et puis la politisation du mouvement, il y a quand même eu une politisation. Voilà, c'était, on l'a bien vu. Ça a été une conjonction après de gens qui voulaient en découdre avec les pouvoirs publics et avec l'ordre. Enfin, disons, avec la légitimité de ce gouvernement, qui rêvait de faire tomber le gouvernement. Quoi. On était en 34, quoi.
Oui, je me demandais si, parmi les explications possibles de cette radicalisation et de ce succès assez inattendu, parce que je crois qu'il a été vécu de façon surprenante par beaucoup, il n'y avait pas... cette coexistence là maintenant de tous les extrémismes, et cet extrémisme là qui s'est soudé autour de la question du mariage pour tous se trouve peut-être légitimé par cette ère que nous vivons qui est celle des extrémismes qui se développe parfois de façon très agressive et voilà. Je me demandais si cette idée de dire il n'y a pas de raison, voilà, bien sûr, il ne s'agit pas pour moi de faire des comparaisons, simplement de dire cette réaction finalement très très naturelle, et est-elle légitime, peut-être pas, mais en tout cas naturelle, de dire il n'y a pas de raison, nous aussi nous avons des convictions, nous aussi nous avons des valeurs, et pourquoi les tairions-nous, enfin bon, voilà, et peut-être qu'à extrémisme, qu'à un extrémisme répond un autre extrémisme, extrémisme et demi, est-ce qu'il n'y a pas de cela aussi dans ces fameuses conjectures?
Oui, il y a une sorte de surenchère pour occuper l'espace politique, l'espace public, l'espace de la parole, et puis la France, pour alors là, historiquement, il y a, disons, une certaine culture française assez fortement catholique et assez fortement politiquement à droite, qui adore la croisade morale. Alors, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, mais dans l'histoire de France, c'est quelque chose qui a été souvent monté en épingle. Alors, ça réveille tout ça, mais on y croit quand même moyen. Disons, je pense qu'il y a des choses qui sont un peu latentes. Moi, j'aurais tendance, mais c'est trop tôt pour vous le dire, parce qu'il y a des sociologues, des politologues qui ont travaillé là-dessus, il y a des livres qui vont sortir à la rentrée, des gens qui ont vraiment fait de l'observation participant dans les manifestations. Donc je voudrais pas non plus abuser de ma position pour vous faire juste un propos de café du commerce. C'est plutôt l'hypothèse, c'est que c'est vraiment un amalgame, oui, d'une nouvelle forme. C'est drôle, c'est presque un enthousiasme d'une forme de citoyenneté qu'on rêverait de voir utilisée dans un autre sens que pour exclure une partie des droits de la population, aller contre des libertés qu'on peut considérer comme fondamentales et qui vont faire des boucs émissaires. Alors, de toute façon, on sait que dans ces... Voilà, il y a un moment, ils seront rattrapés par cette question, personnellement, ou leurs enfants, ou leurs profs. Donc, il y a quelque chose aussi là de dangereux. C'est-à-dire que alors, bien sûr, le discours, c'est pas contre l'homosexualité, c'est contre le mariage. Mais enfin, il y a eu énormément de dérapages homophobes et énormément de... On était très vite dans l'idée que c'était inacceptable. Mais pourquoi c'est inacceptable? Quelles sont les raisons? Et les raisons, elles sont vite dans un rejet de l'autre. Donc, je trouve tout ça très délicat et dangereux. Et ce qui me frappe, je vous dis, c'est que ces mêmes parties de l'opinion... n'était pas du tout sur ses positions. Il y avait plutôt, statistiquement, d'ailleurs, il y avait, je ne sais pas, plus de 60% de gens qui étaient favorables à ce projet de loi. Vous avez toutes sortes d'acclimatation par la culture, d'une culture homosexuelle, qui est plus ou moins tolérée, mais qui rentre dans les feuilletons télévision de façon assez... il y a une sorte de banalisation du vécu homosexuel qui est nécessaire et qui... mais voilà, là, il y a eu une espèce de frontière. Et puis, peut-être aussi un manque en face de culture laïque égalitaire qui n'a pas beaucoup... il n'y a pas une rhétorique très... forte, ni qui joue sur les valeurs, alors qu'on pourrait tout à fait imaginer que quelque chose se dise autour des valeurs de l'égalité, des droits de l'homme, de la liberté, du respect, etc., de l'inclusion. D'ailleurs, c'est assez beau sur ces théologies inclusives. Enfin, là, il y a quelque chose du monde religieux qui pourrait bien aider les laïcs à avoir un langage plus explicite sur ce qu'ils défendent, et force est de constater que ça n'a pas été très audible, même pas audible du tout, parce qu'en fait, il y a peut-être mais c'est un enjeu d'aujourd'hui, parce que pour l'instant, il me semble qu'il y a toutes sortes de valeurs qui sont à mettre en évidence autour de la défense du mariage pour tous, et que on les a pas beaucoup entendus en tant que tels.
Alors, j'ai une question, mais je ne sais pas trop comment la formuler. On nous bassine à chaque fois qu'on essaie de discuter justement sur ces questions, sur l'homoparentalité, sur le mariage pour tous, sur le genre, avec une certaine anthropologie. Alors, bon, il y a Daniel Hervieux-Léger qui, dans une conférence, a balayé tout ça en disant que cette anthropologie-là, elle était construite à partir du IIe siècle de notre ère. Mais qu'est-ce que font les chercheurs de cette anthropologie? Vous n'en tenez pas compte ou bien vous en tenez compte?
Décidé de faire un petit livre qui va sortir donc à la rentrée prochaine, en novembre, qui va s'appeler « Qu'est-ce que le genre ?» en livre de poche. Et on a demandé justement à une collègue anthropologue de parler un peu de l'anthropologie, parce que on entend toujours parler de... Voilà. Donc elle a vraiment distingué anthropologie religieuse et de l'anthropologie sociale. Donc l'anthropologie comme discipline, qui d'ailleurs met plutôt vraiment en évidence la complexité des sociétés qui ont des troisièmes sexes, qui ont des mariages de personnes de même sexe, qui ont toutes sortes d'accommodements qu'on n'imaginerait absolument pas possibles, et qui a mis ça en évidence depuis 30 ans, 40 ans, une fois qu'on s'est intéressé aussi à la sexualité et au rapport de cette construction des sexes et des valeurs sur les rapports entre sexe et genre, eh bien, elle se met vraiment dans cette idée d'anthropologie sociale qu'elle oppose donc à l'anthropologie, disons, religieuse. Et donc, le recours à l'idée d'une norme anthropologique qui serait donc une version laïque d'une norme religieuse qui justifierait la norme religieuse, c'est une anthropologie religieuse. Ça n'est pas du tout l'anthropologie sociale. Donc c'est aussi, l'ambiguïté du langage, mais de même que l'argument psychanalytique est aussi mis en avant comme si c'était la psychanalyse dit que, alors qu'il n'est pas très compliqué de savoir, on peut facilement savoir que la psychanalyse est divisée en multiples courants, qu'à l'intérieur de ces courants, il y avait des opposants et des partisans de cette loi, et que ce n'est pas la psychanalyse, il n'y a pas plus. Enfin, voilà, et qu'il faut absolument spécifier qui parle, et qu'il n'y a pas une vérité. C'est peut-être un peu compliqué, mais de la même façon sur le discours biologique. C'est-à-dire qu'il y a des débats à l'intérieur de la biologie, où vous avez peut-être entendu parler de Catherine Vidal, qui fait beaucoup de vulgarisation savante, qui est neurobiologiste, sur le fait que le cerveau n'a pas de sexe. Et elle parcourt la France assez, avec talent, pour expliquer que toutes ces théories scientifiques reposent souvent sur des préalables d'enquête qui ne sont pas du tout recevables. Enfin, bon, elle a toute sa démonstration, elle, de scientifique. Et donc, il y a pour le moins débat et sûrement pas une parole. Et même dans le monde scientifique, il y a des contestations autour de ce qui serait la vérité biologique. Et c'est là que c'est pour ça aussi que ça, la première affaire autour du genre était autour des manuels de SVT. Et ça n'est pas. Et moi, j'ai été auditionnée à l'Assemblée nationale et un des députés disait mais je suis d'accord avec ce que vous dites, en fait. Mais ce que je ne tolère pas, c'est que ce soit dans un manuel de biologie. Ce que vous dites, même type de discours que ce que je vous ai tenu aujourd'hui, ça va pour un livre de philo. Mais ça ne va pas pour un livre de biologie. Bah oui, mais les biologistes, ils posent aussi des questions. Et ils montrent aussi, et puis il y a aussi des découvertes, et il y a aussi des technologies différentes. Mais c'est intéressant, si vous voulez, comment, dans les débats récents, c'est toujours une version, sauf pour, quand vous regardez les auditions des autorités religieuses, sauf pour les orthodoxes, et un peu moins pour les musulmans, qui se réfèrent davantage à leur idée du sacré, leur idée de la norme religieuse vis-à-vis de l'homosexualité. Mais sinon, c'est des discours sécularisés pour le rabbin Bernheim, pour le représentant des protestants et pour Monseigneur 23, qui parle pour le catholicisme. Et il n'y a pratiquement aucune référence théologique, aucune référence biblique, aucune référence religieuse. C'est un discours normatif au nom d'une certaine vision des sciences humaines. Et ce fameux lexique publié par le Vatican, c'est ils ont fait appel à des scientifiques catholiques qui donnent des points de vue qui sont pour le moins partiels.
Où est-ce qu'on le trouve, ce lexique ?
Alors, il est en vente, hein, il doit être mais sinon, vous pouvez en lire des passages, toujours pareil, sur Google Livres. Il y a des passages entiers qu'on peut lire, donc il y a plusieurs... Et puis, il y avait un petit livre qui a été republié, qui s'appelle « La controverse du genre », et c'est intéressant parce que c'est la généalogie du discours contre le genre, vient de ce groupe, bon, qui était beaucoup autour de Ratzinger, hein. C'est pour ça que ça a eu autant de puissance une fois que c'est Benoît XVI. Ça, c'était un courant terriblement fort contre d'abord l'accès des femmes au sacerdoce, puis contre la légalisation des unions homosexuelles, puisque depuis les années 90, c'est à l'ordre du jour, et dans beaucoup de pays, il y a eu des unions, pas forcément des mariages, mais des types d'unions, et des types de pactes, des types d'unions civiles qui ont été adoptées. Donc c'était une façon de réagir et réagir aussi contre l'usage du mot genre dans les grands organismes internationaux, notamment l'ONU, et le fait qu'à l'époque, les États-Unis avaient, sous Bill Clinton, financé beaucoup de plannings familiaux dans le monde entier et beaucoup d'associations d'aide de santé pour les femmes. Et qu'à partir du moment où Bush a été élu, il y a eu une sorte d'alliance très explicite, hein, c'est pas du tout secret, hein, c'est très explicite, au moment de la conférence de Pékin en 1995, où il y avait une plateforme assez progressiste autour des droits sexuels. Il y a eu une réaction très forte du Vatican et de la droite religieuse américaine, protestante et évangélique. Et ils ont été chercher les autorités musulmanes qui, jusqu'à présent, étaient assez peu concernées par ces questions sur la contraception, l'avortement. Et là aussi se joue quelque chose d'assez fort et d'assez important au niveau international.
Oui. C'est pas une question, c'est une remarque. Et bon, il se trouve que je lis assez régulièrement sur Facebook les propos de Denis Muller, qui est un professeur d'éthique à Genève et puis à Neuchâtel. Enfin, il vient de prendre sa retraite. Alors, ce qui m'étonne, c'est un théologien protestant, ce qui m'étonne, c'est que dans ses arguments, il n'y a jamais un argument théologique, mais toujours des arguments anthropologiques. C'est, en gros, c'est ce silence théologique qui me pose question. Alors, c'est peut-être c'est particulier, mais c'est quand même impressionnant.
Alors, ces nouvelles formes, je crois, du débat public et de la... Disons, il y a une volonté d'intervenir en tant qu'interlocuteur dans le débat public, et ce sont ces arguments qui sont les plus audibles. Mais ceci dit, il s'agit bien d'une anthropologie religieuse, parce que d'où vient cette anthropologie? Elle est directement biblique et elle est directement tirée de la façon dont les religions conçoivent l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'anthropologie? C'est les conceptions de l'homme. Donc c'est un peu un artifice rhétorique c'est une prétention universaliste, ou c'est une position qui se veut universaliste, mais qui est quand même tirée de présupposés anthropologiques, mais religieux. Voilà. Alors, pourquoi pas? Enfin, ça n'est pas non plus condamnable en soi. Simplement, quelle pertinence ça a à se dire un discours universel? Et si on est à nouveau dans une guerre entre la raison et la foi, c'est quand même un peu régressif.
C'est la preuve du dialogue. Aussitôt qu'une personne parle comme d'une entrepreneurie religieuse, j'ai vu des débats, la personne n'a pas encore parlé, qu'elle est déjà évincée du débat. Elle n'a pas le droit d'exister. Et ça me surprend de la part de scientifiques. Moi, j'ai vu des débats même à l'Assemblée nationale. Une fois qu'une personne a dit, allez, entreprise religieuse, la porte est là. Et je pense que c'est là où elles sont venues, les crispations. C'est que je ne suis pas sûr que le débat, les personnes en aient voulu. C'est finalement plus simple de se situer dans une opposition que dans un dialogue.
Oui, moi je pense que l'élaboration de ce projet n'a pas du tout eu besoin de se faire dans l'opposition au discours religieux. Je pense que c'est une histoire entre laïcs. Et il n'y a pas eu de... C'était pas contre. C'était justement dans une logique d'évolution sociétale qui ne s'est pas du tout... Enfin, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne pense pas que c'était une rhétorique contre. C'était une rhétorique qui s'adressait à un autre type de population et qui voulait réguler et mettre en conformité le droit avec les évolutions sociales. Maintenant, qu'il y ait de l'anticléricalisme et qui empêche le dialogue, oui, bien sûr, ça peut tout à fait intervenir, on le voit partout. Maintenant, le dialogue avec une position intransigeante ou identitaire, et là aussi, voilà, les dialogues sont difficiles, effectivement.
Oui, comme dans votre groupe de recherche, il y a le mot laïcité. Est-ce que on a connaissance, par exemple, des prises de position de la libre pensée ou de certains mouvements anthroposophiques ou anthropologiques, ou je ne sais pas comment, comme les.
Je pense qu'il y a eu des divisions là aussi. Hein, il y a eu des divisions, et sûrement des réflexions pas très, voilà, pas très faciles non plus pour accepter. Et d'où le silence dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est aussi que peut-être ce qui est l'appareil un peu plus éthique des transformations égalitaires et qui d'habitude fournit un prédiscours philosophique, ou du moins, a peut-être un peu moins fonctionné sur ce plan. Et sur le genre, ils étaient très décontenancés. Mais là, c'est parce qu'aussi la France a beaucoup de retard dans les études de genre et dans la valorisation de ces études, même si des régions comme l'Île-de-France font beaucoup d'efforts et financent un institut que je co-dirige ou qui fournit des bourses à des doctorants, des post-doctorants. Enfin, il y a des initiatives qui sont très louables, mais on n'en est qu'au début de ce... si vous voulez, d'abord... permettre à la recherche de se développer, et puis ensuite valoriser et faire connaître les résultats de cette recherche. Peut-être que c'est à ce moment-là où nous sommes. Et puis l'autre maillon essentiel, et là où ça bloque pour aussi des raisons, parce qu'en France, il y a des choses qui sont lourdes à porter parce que tout est assez centralisé, mais c'est le maillon entre la recherche et l'enseignement secondaire. Et voilà, on a bien vu que c'était aussi sur l'enseignement primaire là que ça bloquait. Mais même sans parler des ABC de l'égalité qui sont là... plus la lutte contre les stéréotypes, bon, c'est une autre chose. Moi, ce dont je parle, c'est déjà simplement faire bénéficier les programmes scolaires, et c'est un enjeu fondamental tout à fait en ce moment, des apports des études de genre qui existent depuis 30 ans, et depuis bien, et ben voilà, depuis 20 ans et plus, et qui ont fourni dans toutes sortes de disciplines des apports considérables. Et là, j'avoue qu'il y a un conservatisme un peu français, un machisme aussi un peu français. Alors c'est pas suffisant comme explication, mais je pense que c'est aussi que c'est très centralisé, qu'il pourrait y avoir dans un pays fédéral, c'est pas, voilà, vous négociez davantage avec les régions. Là, les programmes sont vraiment tous nationaux. Enfin, c'est plus lourd, hein, c'est plus lourd. Et il y a une assez grande inculture égalitaire de la gauche française, qui était moins le cas du Parti communiste, qui avait plus une culture égalitaire particulière, mais malgré tout, avec des mouvements de femmes, enfin bon, qui ont été... Je vois bien les conférences que je faisais il y a 20 ans, et voilà, il y avait des acquis de connaissances qui étaient tout à fait... des fondamentaux qui étaient tout à fait acquis dans le public, hein, sur le droit de vote, les mobilisations des femmes, enfin bon, etc. Alors que, du côté socialiste, c'est beaucoup plus frileux, et du côté des cultures de gauche... Bon, mais ça, c'est un trait français, alors là, de la longue durée, puisque par rapport aux socialistes allemands, par exemple, le 19e siècle, le début du 20e siècle, c'est tout à fait frappant, où les socialistes allemands sont beaucoup plus féministes que les socialistes français. Donc voilà, ben, ça, c'est des choses qui sont peut-être pas absolument déterminantes, mais c'est frappant dans ce qui a empêché le dialogue et polarisé le débat. C'est aussi entre ce que nous aurions pu ou aimer dire ou aimer faire entendre et le fait que nous avions peu de relais parmi la société civile et parmi les mondes politiques.
On en reste là. Bonne soirée. Merci.